Bonjour à tous. Alors, ce matin, nous avons lu Genèse 8 et je pense que vous êtes bien conscient que depuis maintenant 8 semaines, nous avons commencé à lire un chapitre de la Bible le dimanche matin lors du culte. C'est pas par tradition, c'est pas pour faire bien ou pour être plus religieux que d'autres, non. Mais c'est plutôt dans un souci aussi d'avoir un moment lors du culte pour écouter la parole de Dieu, pour qu'elle nous instruise, aussi simplement en l'écoutant, sans commentaire. Et pas uniquement un passage précis ou un passage en particulier ou juste un verset comme on peut le faire le temps d'un message, mais vraiment parcourir tous les passages de la Bible et voir ce qu'ils ont à nous dire. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des passages un peu plus compliqués que d'autres, à la fois à lire, à écouter et puis à digérer. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi de la lecture de la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est inspirée et utile pour nous enseigner, pour convaincre. Et donc, je me suis dit, dans cette optique-là, ce matin, j'aimerais faire, comme on est dans les premiers chapitres de la Genèse, j'aimerais faire un peu une petite synthèse ou un récapitulatif de Genèse 1 à 11, puisqu'on lit ces chapitres en ce moment au culte. Et donc, voir avec vous pourquoi ces passages sont essentiels et pourquoi ils font partie prenante de tout le message aussi de la Bible. Genèse 1 à 11, on peut dire, si on réfléchit, on voit tout à fait qu'il s'agit de l'histoire de l'univers. L'histoire de l'univers dans des domaines bien précis. Nous avons, dans les premiers chapitres de la Genèse, l'explication du pourquoi notre monde, pourquoi notre univers et pourquoi il est comme il est aujourd'hui. Même si, peut-être, à premier abord, cela ne vous semble pas vrai. Mais à tout niveau, que ce soit au niveau astronomique, dans ces premiers chapitres de la Genèse, nous allons comprendre l'infiniment grand. Au niveau géologique, avec ces premiers chapitres de la Genèse, nous allons comprendre toutes ces cicatrices qui se trouvent si réelles autour et sur notre planète. Nous allons comprendre aussi au niveau biologique le monde et sa diversité d'espèces. Et même nous allons, et c'est ce que nous avons fait un petit peu plus tôt ce printemps avec les enfants, nous avons réussi à positionner et à discuter des dinosaures. Alors, si vous ne savez pas où les placer, vous avez manqué quelque chose, parce qu'avec les grands de la découverte de la Bible, nous avons passé une journée formidable là-dessus. Et puis, surtout, nous allons comprendre, avec ce message, avec ces chapitres que nous allons continuer à lire ces prochaines semaines, nous allons comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est aujourd'hui, aussi au niveau sociétal. Donc, clairement, le premier livre de la Genèse, et notamment les 11 premiers chapitres, eh bien, ce passage va nous décrire l'origine de l'univers, l'origine de la terre, de la vie, l'origine de l'être humain, des gouvernements, du mariage, des cultures, des nations, du péché et de la mort. Et nous avons commencé à en parler ce matin déjà. Tout le début de notre culte, il a été question de la délivrance. S'il y a délivrance, c'est qu'il y avait un jour une emprise, esclavage, emprisonné. Et bien là aussi, si on veut la clé, on est obligé de lire les premiers chapitres de la Genèse. Alors, dans les chapitres que nous avons lus ces dernières 8 semaines, ou 7 semaines, nous avons retrouvé des passages qui décrivent simplement la création des cieux et de la terre. Nous avons vu aussi, par exemple, dans Genèse 3, des choses très concrètes au niveau de la tentation et de la chute. Ce matin, nous avons parlé du déluge et de la sortie de l'arche suite au déluge. Alors, c'est vrai qu'il y a des chapitres un petit peu plus difficiles que d'autres. Ce matin, c'était relativement compréhensible, enfin j'espère. y a quelques semaines, on a lu Genèse 5, 4, 5. Dans quelques semaines, nous allons lire Genèse 10 et puis 11, où là, on a une énumération de noms, de postérité, d'enfants qui descendent de leurs parents et d'âges aussi qui nous sont relatés. Mais tout cela fait un tout dans ce récit. Et puis, la fin de cette série de chapitres 1 à 11, nous allons terminer avec la tour de Babel. Et donc, ce que j'aimerais voir avec vous, ce n'est pas polémiquer sur ces chapitres, mais j'aimerais voir quels sont les principaux enseignements bibliques que l'on peut y trouver. Alors, on ne pourra pas parcourir tous les enseignements bibliques, sinon il nous faudrait des jours, des semaines, et vous me connaissez, notamment sur ces sujets-là, je pourrais en dire. Mais j'aimerais aussi qu'on ne s'arrête pas simplement à se dire, comme trop souvent aujourd'hui, mais que doit-on retenir au minimum des 11 premiers chapitres pour que le reste de la Bible soit cohérent et vrai? J'aimerais voir quand même un petit peu plus que cela. Pourquoi? Parce que je pense que ces premiers chapitres, je vous l'ai déjà dit, sont essentiels dans tout ce contexte et dans cette délivrance dont nous bénéficions aujourd'hui. Et donc j'aimerais un petit peu stimuler votre réflexion, stimuler les discussions mais peut-être entre nous, et vous encourager à chercher les bonnes réponses dans la parole de Dieu. Donc vérifiez si dans la Bible c'est vraiment comme cela, et puis vérifiez aussi ce que je dis. Et vous étonnez peut-être de ce que la parole de Dieu, et notamment ces premiers chapitres de la Genèse, sont encore terriblement d'actualité. Donc n'hésitez pas à venir me voir après le message pour prolonger la discussion, même partager votre désaccord ou que sais-je encore, ou votre étonnement, voire votre état de choc, c'est pas grave. À ce niveau-là, je suis assez blindé. J'aimerais, en plus des deux versets de Timothée que je vous ai cités, j'aimerais citer un autre verset dans Hébreux 4, au verset 12, où il est dit, il est parlé de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est vivante et efficace. Donc la Bible est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc j'aimerais aussi que nous, ensemble, et que vous, quand vous êtes chez vous à la maison et que vous étudiez, vous lisez la Bible, vous vous placiez aussi avec cette optique-là de la Bible. Parce que je pense que trop souvent, en tant qu'être humain, on se croit au-dessus de tout. Et donc, on va aussi traiter la Bible avec ce pressentiment ou cet a priori d'être au-dessus. Je suis au-dessus de tout. Mais ce qu'il nous a dit là, c'est quoi? C'est que la Bible nous examine, nous. Et que ce n'est pas l'inverse. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est extrêmement important, y compris dans notre milieu chrétien. C'est la Bible qui nous examine, et ça, c'est dit tel quel dans Hébreux 4, 12. Et nous, trop souvent, on veut examiner la Bible, retenir ce qui nous plaît, laisser de côté ce qui ne nous plaît pas, et on se fait notre propre petite religion dans son coin, et tout va bien. Non, la Bible nous examine, et pas l'inverse. Et la Genèse, quand on commence à l'examiner, eh bien, on remarque que la Genèse, et notamment ses 11 premiers chapitres, eh bien, vont nous mettre en présence d'un grand Dieu qui est Seigneur, Créateur de tout le monde. La Genèse est un livre sur les origines. Et donc, je vous l'ai dit, il présente l'origine de l'univers, l'origine de la race humaine, la naissance de la nation israélite, et la Genèse fait partie de la parole de Dieu. Elle dit donc, et c'est ce que nous venons lire dans Hébreux 4, verset 12, elle dit donc ce qui est vrai et corrige notre pensée. Alors, il faut aussi que dans le contexte d'aujourd'hui, nous replaçons et nous sachions que la Genèse n'est pas un manuel de science. Heureusement. Mais elle est terriblement exacte quand elle parle de choses, même scientifiques. Et il est aussi important de voir que, et là aussi c'est dans l'optique que c'est la Bible qui nous examine et non l'inverse, eh bien de tout temps, les chrétiens qui sont venus avant nous, ceux qui ont cherché à garder, conserver et transmettre la Bible, ont eu aussi cette pensée d'être examinés par la parole de Dieu et non pas eux d'examiner la parole de Dieu et de la déformer ou de l'adapter à l'ère du temps. S'ils avaient fait ça, eh bien, il ne resterait plus grand-chose de la Bible aujourd'hui. Alors on peut se dire, oui, mais ces premiers chapitres, on peut les prendre comme une petite histoire bien gentille, mais non, ces chapitres sont tellement cités par le Nouveau Testament. Il y a à peu près une soixantaine de références de la Genèse, et notamment des 11 premiers chapitres, dans le Nouveau Testament. Donc c'est essentiel. Et Francis Schaeffer, l'un des philosophes chrétiens les plus connus de nos dernières décennies, parlait justement que l'idée de la création atteint au même degré d'historicité que les événements d'Israël ou de ceux de notre temps. Donc c'est quelque chose qui est factuel, c'est quelque chose qui est vrai, qu'on ne peut pas se passer, puisque l'Ancien et le Nouveau Testament se fondent délibérément sur ces premiers chapitres de la Genèse. Le Nouveau Testament se fonde sur les premiers chapitres de la Genèse. Alors on peut se dire, oui, mais aujourd'hui, quand même, dans notre monde, il faut avoir un petit peu de souplesse. Et, vous savez, ce n'est pas nouveau qu'on cherche à remettre en cause la Bible, et notamment son message, et notamment ses premières pages. Déjà, vers les années 1863, un théologien qui étudiait la Bible et qui écrivait un commentaire sur la Genèse disait la chose suivante: « Je repousse de toutes mes forces le système de triage qui est si fort en vogue de nos jours. Cette théologie s'arroge le droit de distinguer entre parole de Dieu et écriture sainte, de trier dans la Bible entre ce qui est inspiré et ce qui ne l'est pas, entre ce qu'elle appelle l'événement divin et l'élément humain. » Tout comme je vous disais dans Hébreux 4:12, ce n'est pas la Bible qui nous examine, mais c'est nous qui cherchons à l'examiner pour trier ce qui est bon. En vertu de ce principe, on arrache de la Bible ligne après ligne, page après page, livre après livre. Et si nous faisons ça aujourd'hui, on peut se demander, mais quelle sera la Bible des générations futures? Parce que chacun va arracher la page qui ne lui convient pas. Alors, revenons un petit peu sur ces premiers chapitres de la Genèse. Genèse 1 à 11, j'aimerais balayer un petit peu les enseignements qui sont contenus dans ces chapitres. Et je vois quatre événements majeurs. Quatre événements majeurs avec quatre mots qui commencent par un C. Alors c'est fait exprès, bien sûr. Nous voyons dans les premiers chapitres la création. Dans le chapitre 3 de la Genèse, nous voyons la chute. Dans les chapitres 6 à 8, nous voyons une catastrophe majeure et conséquente. Et puis, dans Genèse 11, nous voyons une grande confusion. Voilà un petit peu les quatre événements majeurs que j'aimerais parcourir avec vous durant ces prochaines minutes, voire ces prochaines heures, si personne ne se lève et réagit. Donc, commençons par la création. La création, il nous est dit là, au commencement, Dieu créa. Et il nous est présenté au tout début, dans les premiers versets, le commencement du temps, le commencement de l'espace, le commencement de la matière. Avec des choses très claires qui nous sont dites que tout vient de Dieu et tout est sous son contrôle. Tout vient de Dieu et tout est sous son contrôle. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Tout vient de Dieu et tout est sous son contrôle. Et juste pour vous montrer que le Nouveau Testament atteste justement ces premiers chapitres de la Genèse, Hébreux nous dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Et oui, les auteurs du Nouveau Testament reconnaissent ce que certains chrétiens aujourd'hui même rejettent. C'est quand même ahurissant. Oui, certains chrétiens aujourd'hui disent que non. Ce n'est pas Dieu qui aurait formé le monde. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Et Marc 10, verset 6, on a aussi un détail. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Au commencement, ce n'est pas au bout de quelques longues périodes, non. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Et on pourrait, et je l'ai déjà partagé avec vous, ce chapitre merveilleux et ces versets merveilleux de l'apôtre Paul devant les sages à Athènes, devant les évolutionnistes de son temps, eh bien, Paul fait un discours absolument remarquable. Alors, quand on regarde à la création, et quand on regarde ce récit, ces premiers chapitres, nous voyons que Dieu est placé en premier. Dieu d'abord, Dieu en premier. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu, Dieu en premier, et Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour qui nous est présenté, et c'est un Dieu d'éternité qui ne dépend pas de l'être humain, qui est et qui a toujours été. La deuxième chose que nous pouvons voir aussi, c'est que Dieu parle. Dieu parle. La première chose que nous voyons, Dieu parle. Il est dit, Dieu dit et il y eut. Et c'est par sa parole puissante qu'il va donner corps à tout l'univers. Et donc il va se révéler à travers sa parole. Déjà au moment de la création, et aujourd'hui encore, il va se révéler à travers sa parole écrite. Donc à travers toute la Bible, Dieu est un Dieu qui parle et qui ose même parler avec les humains. Troisième chose, on a déjà dit, Dieu a fait toute chose. C'est clair. Et c'est quelque chose qui est essentiel, notamment dans certaines pensées philosophiques qui existaient au niveau du temps des Grecs, mais qui aujourd'hui aussi regagnent un petit peu de l'importance. Ça s'oppose à la pensée du panthéisme, comme quoi toute chose dans l'univers est Dieu. Non, c'est clairement pas ce que dit la Bible. Dieu a fait toute chose. C'est pas toute chose dans l'univers est Dieu. Quatrième chose que nous pouvons voir aussi dans ces deux premiers chapitres, Dieu existe. Dieu existe et Dieu est bon. Dieu est bon, et même si vous lisez le chapitre 1, il est dit que tout ce qu'il a fait aussi est bon. Donc c'est aussi lourd de conséquences. Dieu est bon. Dans ces premiers chapitres, il nous est présenté aussi Dieu crée l'homme et la femme. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité vis-à-vis de notre Créateur. Donc l'homme a une responsabilité. On voit que quand Dieu crée l'homme et la femme, il crée les êtres humains à l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Là aussi, on pourrait, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais vous savez qu'on pourrait disserter sur cette question, et notamment sur ce qu'on nous annonce aujourd'hui, que l'homme ne serait qu'un animal évolué. Une autre chose que l'on voit très clairement, c'est que l'être humain est placé sur cette terre pour être un gérant. Donc nous sommes des intendants dans ce monde, les intendants de la création, et donc nous devons gérer la création en tant que bons intendants. Nous voyons aussi un caractère très particulier au niveau de la création. Nous voyons que la création est ordonnée et structurée. Dieu donne un ordre. Il donne déjà un ordre dans la façon dont il fait les choses. Et ensuite, il donne aussi une structure qui existe. Et donc, il place ensuite l'homme au-dessus. Quand vous parcourez la Bible, alors attention, il y a des mots un petit peu compliqués qui sortent de temps en temps. L'eschatologie, c'est quand il s'agit de la fin des temps. C'est ce qui nous attend à venir. Eh bien oui, nous allons voir, et je terminerai là-dessus ce matin, ce qui arrivera à la fin des temps renvoie directement à la création, puisqu'il est parlé des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, qui justement est en parallèle avec la création originelle de Dieu, au commencement. On peut voir, on ne le verra pas ce matin, mais on peut voir combien l'origine du sabbat, du jour de repos, est liée à la création. Vous pouvez le lire dans Exode 20, verset 11, et vous pouvez réfléchir pourquoi nos jours et notre semaine est telle qu'elle est aujourd'hui et pourquoi elle n'est pas différente. C'est directement dû à Genèse 1 et notamment Dieu qui rappelle Genèse 1 lorsqu'il donne les commandements à Moïse. Et ensuite, on voit dans la création, on voit combien Dieu est grand. On voit combien Dieu est grand. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Dieu n'avait pas besoin de nous. Dieu est un Dieu d'amour. Mais alors, si Dieu n'a pas besoin de nous, on pourrait en conclure que notre vie n'a aucune importance. Et pourtant, si Dieu est un Dieu d'amour, nous avons été créés par Dieu, mais nous avons été créés par Dieu non pas pour vivre une vie égoïste sur cette terre, et c'est ce qui nous est rappelé aussi dans ces premiers chapitres, et c'est ce que nous avons aussi partagé ensemble ce matin déjà dans ces moments de louange. Nous avons été créés par Dieu pour glorifier Dieu. Et donc nous avons, de façon directe, une importance aux yeux de Dieu. Et pas seulement aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Notre vie a une réelle importance et elle a de la valeur pour Dieu. Elle a même une tellement grande valeur que Dieu a choisi de nous créer, non pas comme des robots ou des marionnettes, non, mais libres. Et donc, nous avons aujourd'hui encore la capacité de choisir soit d'aimer Dieu, soit de lui tourner le dos. Parce qu'on pourrait dire, mais ce serait plus simple. Si Dieu, pourquoi Dieu nous fait avec une capacité de choisir et de faire ce qui est contraire à sa volonté? Bien, s'il ne l'avait pas fait, on ne serait que des marionnettes. Mais il veut faire plus, il a un plus grand projet pour nous. Pour nous d'avoir un libre choix. Et donc, pour revenir aussi à pourquoi nous avons été créés, et ce que nous faisons sur cette terre, dans Éphésiens 1, versets 10 à 12, il nous a dit « Nous avons été destinés à vivre pour célébrer sa gloire, nous qui sommes les premiers êtres de la création, à placer notre espérance en Jésus-Christ. Depuis longtemps, les Juifs, nous avons attendu ardemment notre Messie. Maintenant, nous pouvons contribuer à la louange de sa gloire en vivant à son honneur. » Donc notre but dans la vie, encore aujourd'hui, pour chacun d'entre nous et en tant qu'assemblée, devrait être de glorifier Dieu. Et on voit déjà le psalmiste qui nous dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais savoir quel chemin mène à la vie. On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi. » Et au chapitre 27 du psaume, au verset 4, « Je demande une chose au Seigneur, je cherche une seule chose, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Là, je veux admirer sa beauté et le contempler dans son temple. » Ça nous demande de notre part une connaissance toujours plus grande de notre Dieu, de notre Seigneur, et une compréhension aussi toujours plus grande, pour que l'on arrive à cet état de vouloir vraiment tous les jours de notre vie habiter la maison du Seigneur, admirer, contempler notre Dieu. Voilà un premier enseignement de ces premiers chapitres de la Genèse. Alors, le deuxième mot que j'avais sur ma diapositive tout à l'heure, commençait aussi par C, c'était la chute. Alors la chute, justement, bien du fait que Dieu ne nous a pas créés en tant que marionnettes et n'a pas créé Adam et Ève en tant que marionnettes. Non. Mais Dieu a créé l'homme libre. Et donc, l'ennemi de Dieu, Satan, dès le début et encore aujourd'hui, va miser sur le désir de beauté, de connaissance, de nourriture que Dieu avait donné à l'homme. Et donc, on a lu, il y a quelques dimanches, ce qu'il est arrivé au début de la création, donc après la création de l'homme et de la femme. Finalement, l'ennemi, Satan, qui fait appel au mauvais emploi des instincts de l'être humain, contre le commandement direct de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre, et l'homme libre, choisit librement de désobéir, avec pour ambition, tout comme aujourd'hui, de devenir égal à Dieu. Et donc un refus de la souveraineté absolue de Dieu. La chute est l'entrée du péché dans ce monde. Alors si maintenant j'oublie ces premiers chapitres de la Genèse et dis « mais moi, non, pour moi, ça ne compte pas », eh bien, que faites-vous alors des passages du Nouveau Testament qui nous citent directement et qui montrent la validité de ce récit de Genèse 3? Dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, il nous est dit « c'est par un homme, Adam, que la mort est venue, c'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam, de même tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. » L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il est très clair, il nous dit « voilà, la mort est dans ce monde, pourquoi ? Parce que, au début, Adam et Ève ont désobéi. » Et si nous lisons Romains 5, on pourrait lire tout le passage 12 à 21. Je vais vous lire, citer quelques versets entre les versets 12 et les versets 21. Il nous a dit là aussi, « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. » Verset 19, « Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. » Donc, en tant que descendants d'Adam, nous comprenons qu'il y a une universalité du péché. Nous sommes sous la même loi du péché qu'Adam. Dans 1 Roi 8, verset 46, « Il n'y a point d'homme qui ne pêche pas. » Dans le psaume 143, là aussi, « Personne n'est juste devant toi. » quand le psalmiste s'adresse à Dieu. Dans le Proverbe 20, verset 9, il est dit « Qui peut dire « J'ai rendu mon cœur pur, je suis lavé de mon péché » ?» On dit « Personne ne peut vraiment, n'est juste devant Dieu. » Et on pourrait continuer, il y a beaucoup de passages là-dessus. Romains 3, verset 23, « Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » C'est clair, c'est très clair. Et donc ça, c'est en lien direct avec ce qui s'est passé dans les premiers et ce qui nous est écrit dans les premiers chapitres de la Genèse. Romains 3, versets 10 et 12. « Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Tous ont quitté le bon chemin, ils sont tous corrompus. Personne ne fait le bien, pas même un seul. » Jacques 3, la même chose. « Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait, il peut être maître de tout son cœur, de tout son corps. » Mais il commençait la phrase en disant, ou le verset, « Nous faisons tous beaucoup d'erreurs. » Donc, nous voyons là que la chute, le départ, a encore ses conséquences aujourd'hui. Et c'est ce qui explique dans notre monde que finalement, on est côtoyé par des gens qui ne sont pas des saints, puisque nous, les premiers, nous ne sommes pas des saints, si nous ne sommes pas en Jésus-Christ. Et même, en étant en Jésus-Christ, on ne fait pas tout le temps ce qui est bien. Je pense qu'on le réalise. Même l'apôtre Paul le disait et s'exprimait « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de chair ?» Nous voyons dans ces premiers chapitres aussi un autre enseignement qui nous dit « Eh bien, avoir le monde d'alors, dans Genèse chapitre 6, le monde devenait si pervers, si violent, si brutal, que Dieu ne pouvait pas le laisser comme cela. Et donc, il a envoyé une catastrophe. Une catastrophe majeure qui a eu des impacts au niveau de toute la terre. Et donc, il nous est parlé justement d'un déluge global. Et si vous regardez un petit peu dans le psaume 104, il nous est parlé des montagnes qui se retirent, des vallées qui se retirent, des montagnes qui s'élèvent vers la fin du déluge. On voit combien notre monde a été complètement refaçonné, notre croûte terrestre a été refaçonnée au moment du déluge. Un déluge global. Et quand on voit aujourd'hui, je pense que vous regardez tous les nouvelles à la télé ou dans les journaux, quand vous voyez l'impact d'une petite inondation quelque part, eh bien on peut se dire qu'une catastrophe de l'ampleur du déluge qui touche le monde entier, ça a dû laisser des traces. Et ça ne peut pas laisser indifférent. Alors une catastrophe avec un déluge global est la seule façon de survivre, c'est d'être trouvé dans l'arche. Et nous avons lu ce matin le chapitre 8 qui nous parle de la sortie de l'arche. Et une catastrophe qui est sérieuse pour les temps d'alors, mais qui doit aussi nous parler aujourd'hui. Parce que dans le Nouveau Testament, il nous est dit, là aussi, quand les disciples interrogent le Seigneur et veulent savoir, mais quand sera la fin des temps? Quand, Seigneur, vas-tu revenir? Il nous a dit, là, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Le déluge vient et les emporte tous. Ou dans 2 Pierre, là aussi, il nous a dit, verset 5, « Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. » La parole de Dieu est très claire. La patience de Dieu se prolongeait à l'époque de Noé, pendant la construction de l'arche. Un petit nombre de personnes, à savoir 8, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. Et donc l'apôtre Paul le rappelle dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche, puis le déluge est venu et les a tous fait mourir. » Alors mes chers amis, si aujourd'hui vous croyez que le déluge de Noé c'était un déluge local et que simplement il suffisait de partir un petit peu à côté et que c'est comme ça que certains animaux ont survécu, donc vous allez croire que quand le Seigneur va revenir, tout ne va pas disparaître et vous pourrez filer à côté et puis survivre comme ça. Non. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible, je suis désolé. En plus, quand on regarde justement, quand on prend le temps d'étudier, on voit tellement de traces d'une grande quantité d'eau à un moment donné sur la surface de la Terre et tellement de traces aussi dans le registre des fossiles qu'on doit se dire, mais c'est la Bible est vraiment digne de confiance. Ça, c'était le troisième C, donc la catastrophe. Le quatrième C, c'est la confusion. La confusion qui, bien sûr, nous reparle de l'orgueil de l'être humain, qui était déjà présent au moment de la chute, mais où là, à un moment donné de l'histoire, quelques dizaines d'années après le déluge, eh bien l'homme, il y avait de nouveau la terre qui avait été repeuplée, et les hommes étaient ensemble, et ils voulaient... Il nous est dit, quand vous lisez le Genèse 11, il nous est dit, nous voulons nous faire un nom. Ils avaient peur d'être dispersés, ils voulaient vraiment faire quelque chose de grand entre eux et puis vraiment marquer leur époque. Et là, Dieu a dû intervenir. Et là aussi, nous voyons maintenant, avec l'intervention de Dieu, nous avons la compréhension de l'origine des peuples et de l'origine des langues. Et donc, on pourrait là aussi passer pas mal de temps à discuter cela, mais je ne vais pas le faire ce matin. Mais ça vaudrait la peine de s'intéresser là-dessus, ou en tout cas, prenez du temps pour réfléchir là-dessus. J'aimerais juste faire une petite parenthèse pour vous montrer combien la Bible est quand même assez précise et ces premiers chapitres de la Genèse, moi, je trouve ça formidable. Est-ce que vous savez que les premiers chapitres de la Genèse nous parlent de notre régime alimentaire ? De votre régime alimentaire, dans Genèse 1, 29 et dans Genèse 9, verset 3. Et moi, je suis très content qu'il y ait Genèse 9, verset 3, vous savez. Genèse 1, 29, là, il est dit, « Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. » Avant Genèse 9, verset 3, l'être humain était végétarien. Genèse 9, verset 3, donc c'est ce qu'on va lire dimanche prochain. « Tout ce qui se déplace et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela de la même manière que je vous ai donné l'herbe verte. » Non. Donc vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose qui est donné par Dieu. Mais il faut aussi se rappeler Il faut se rappeler, l'être humain est gérant de cette planète. Donc là aussi, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais d'agir en tant que bon gérant, en tant que bon intendant de cette planète. D'accord ? Les premiers chapitres de la Genèse nous parlent de la durée de vie humaine. Oui ? Ah oui, sérieusement ? Alors, je me suis amusé, j'ai fait un graphique où, vous savez, vous avez les chapitres 5, 10 et 11 là, de la Genèse, avec l'âge de tous les ancêtres du peuple d'Israël. Et donc, j'ai mis, on le voit un petit peu mal, mais j'ai mis sur l'axe des X, ce sont les différents personnages qui sont cités. Donc là, vous avez tous les différents personnages qui sont cités. Et puis donc, l'axe des Y, vous avez l'âge, leur âge qui est donné dans la Bible. Et donc, nous voyons qu'avant avant l'époque de Noé, donc ici, avant le déluge, il y avait des gens qui vivaient très longtemps. Vous allez me dire, mais c'est pas vrai, là, il y en a un qui vit moins longtemps. Vous savez qui c'est ? Enoch. 365 ans, et il ne fut plus parce que Dieu l'a pris. Donc, il n'est pas dit qu'il est mort, Dieu l'a pris. Donc, lui, je peux l'ôter de mes statistiques, si je veux, la Bible me permet de le faire. Donc, on voit, avant le déluge, une vie beaucoup plus longue, et après le déluge, une vie beaucoup plus courte. Et il est dit dans Genèse 6, verset 3, l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, il vivra 120 ans. Intéressant. Alors moi, ça m'amuse parce que, vous savez, je lis souvent des articles scientifiques. Ma vie n'est faite, enfin, en grande partie de cela. Et donc, il y a 3 ans, il y avait un article dans l'un des plus grands journaux scientifiques d'aujourd'hui, Nature, donc qui rapporte des travaux scientifiques. Et puis là, il y avait un article, Evidence for a Limit to Human Lifespan. Donc, c'est des évidences sur la durée de vie, donc d'une limite sur la durée de vie de l'être humain. Et donc, scientifiquement, et je vous ai mis une petite traduction ici, nos résultats suggèrent fortement que la durée maximale de vie des êtres humains est fixe et soumise à des contraintes naturelles. L'être humain ne peut pas vivre pour toujours. Même si on essaye de le faire aujourd'hui par bricolage, on espère repousser les limites, on sait qu'il y a une sorte de programmation qui existe et que la vie humaine a une limite, tout comme elle est donnée dans la Genèse. Et vous savez, des choses comme ça, des petites anecdotes scientifiques, il y en aurait des dizaines et des centaines sur les premiers chapitres de la Genèse. Je continue ma parenthèse parce qu'elle est essentielle. Essentielle pour tous les parents qui sont ici dans la salle, ou les grands-parents, ou que sais-je, ou ceux qui travaillent avec des enfants, ou ceux qui côtoient des enfants. Il y a quelque chose qui me fait pas mal bondir. Et hier soir, vous auriez vu sur ma chaise, quand je préparais ce message, je touchais presque le plafond. Quand on parle de la construction de l'arche et du déluge, je me suis intéressé hier de façon très précise sur ce qu'on mettait à disposition à nos enfants dans le milieu chrétien. Et donc j'ai été, je ne vous donne pas les sources, mais si vous voulez en aparté et en off, je vous les donnerai. J'ai été sur le site internet d'une librairie chrétienne. Et donc par rubrique, pour les enfants entre 0 et 4 ans, pour les enfants entre 4 et 6 ans, pour les enfants encore entre 4 et 6 ans, et puis pour les 6-9 ans, j'ai un petit peu regardé, et ensuite pour les enfants un petit peu plus âgés, 9 à 12, y compris les adolescents et les jeunes. Et donc, j'ai regardé les 56 ouvrages au total qui sont proposés à nos petits chérubins. Et quand vous voyez les couvertures de tout cela, et quand vous lisez, c'est ça qui est ahurissant, quand vous lisez la Genèse, eh bien vous voyez de façon flagrante que ça ne peut pas correspondre. Et que ces couvertures de livres sont en totale contradiction avec Genèse 6, versets 15 et 16. Pourquoi ? Eh bien parce que l'échelle réelle de l'arche, la voilà, une construction de l'arche telle qu'elle est présentée dans la Genèse, avec bien sûr des petites adaptations, mais la réplique de l'arche à l'échelle 1 fait 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. À ma connaissance, il en existe deux au monde. Une pas très loin de chez nous, enfin de chez nous, vers Rotterdam, par là-bas, et puis l'autre est aux États-Unis, c'est un parc d'attractions. Et donc, ça n'a rien à voir avec les couvertures de livres que l'on trouve pour nos enfants. Je suis désolé. Et donc, nous devons, en tant que parents, réfléchir un petit peu. Si nous voulons, si vous voulez que vos enfants croient la Bible, est-ce en leur présentant des choses comme ça? Vous allez, dès le début, fausser leur perception des choses. Vous allez leur donner une mauvaise image. Et un jour, à l'école, quand ils vont entendre « Mais l'arche de Noé, ça ne peut pas exister bah, », bien sûr, s'il a été habitué à des couvertures de livres ou à des livres comme ça, il va dire « Oui, bien sûr, c'est pas possible. » Donc faisons attention. Et ça, c'est juste dans un domaine bien particulier. Mais dans beaucoup d'autres domaines, je pense que nous avons tendance à faire la même chose. Donc l'arche, c'est un bateau qui était conséquent, qui était immense, gigantesque. Et là aussi, je pourrais vous en parler des heures, je ne vais pas le faire. On a vu ces quatre enseignements majeurs au niveau des premiers chapitres de la Genèse, mais j'aimerais prolonger en vous présentant finalement les sept C de l'histoire de notre monde. On en a déjà vu quatre. Donc on a vu la création, qui au début Dieu créa et toute chose était très bonne. On a vu qu'après l'entrée du péché dans le monde, la chute, ça assombrit tout. Nous avons vu la catastrophe qui est décrite par le déluge et la malédiction qui vient sur tout le désastre qui vient sur tout le monde. Nous avons vu la confusion, mais il y a trois autres C qui existent dans l'histoire de ce monde et qui se trouvent un petit peu plus loin dans la Bible, mais qui ont directement à faire avec ce que nous voyons dans les 11 premiers chapitres et ce que nous avons partagé ce matin. Romains 5, versets 12 à 21, on a déjà commencé à le lire, je ne vais pas vous relire tout le début où il est dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, mais là, l'apôtre Paul met en parallèle direct, il nous dit, si par un seul homme le péché est entré dans le monde, eh bien, par un seul homme, il y a aussi la rédemption. Le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important, il nous est dit, ce don Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ, et ainsi il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Et on continue, par le seul Jésus-Christ, donc verset 17 là, oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde, par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits, il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Et on peut continuer encore. Un seul homme a obéi et un grand nombre de gens seront rendus justes. Par Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens 15, c'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam. De même, tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ. Et donc, nous voyons qu'il y a une parallèle directe entre ce qui s'est passé avant et maintenant, pour continuer, la croix, Christ, bien sûr, et puis, à la fin des temps, la fin de toute chose, donc la consommation, l'achèvement de toute chose. Et donc voilà un petit peu ces sept C de l'histoire de notre monde qui forment un tout aussi. C'est-à-dire que nous voyons très clairement, et j'ai essayé de vous le montrer un petit peu par différents passages, qui mettent en relation l'Ancien et le Nouveau Testament, les premiers chapitres de la Genèse, avec l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix que nous avons encore commémorée ce matin. La chute, la réponse à la chute, c'est la venue de Christ. Tout comme les survivants devaient être dans l'arche, eh bien là aussi le salut vient via la croix. Il n'y a de salut en aucun homme, si ce n'est en Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui puisse nous racheter. Et donc la création aussi, et je vous l'ai cité tout à l'heure, elle est citée dans l'Apocalypse pour parler de nouveaux cieux et de nouvelles terres qui va venir. Et donc, nous voyons donc cet enseignement forme un tout que nous ne pouvons laisser de côté et qui surtout est important pour notre vie chrétienne aujourd'hui. Alors, je vais finir avec deux passages parce que le temps file et je pourrais encore passer trop longtemps là-dessus. L'apôtre Paul nous dit, à un moment donné, dans Romains 8, versets 18 à 23, quand il était bien sûr aux proies, aux difficultés dans ce monde, il dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire, souffre les douleurs de l'accouchement. Ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. » Donc nous soupirons avant, après une délivrance. Cette délivrance, elle est nécessaire parce que nous avons été sous la malédiction et nous sommes sous la malédiction du péché, mais cette délivrance est possible par Jésus-Christ et c'est ce que nous avons déjà commencé à célébrer ce matin et nous réjouir ce matin. Et donc, nous pouvons dire aujourd'hui encore à notre Dieu et à Jésus-Christ notre Sauveur, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Tu as créé l'univers et c'est par ta volonté que toute chose existe. Amen.